Europe 1,
9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous, saison 2, épisode 8 du Club de l'été, un club avec du bon son évidemment, mais pas seulement. Ici on se cultive, on découvre et on se découvre avec le sourire, même si vous pourriez entendre au cours des deux prochaines heures les mots dictateur, empereur, gambette et camembert. Alors qui dit club dit vigile, ils sont deux, Lise Pressac pour le tourisme et la culture et Olivier Pouls pour la gastronomie. Bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Oui, bonjour madame.
Et il se pourrait que je me conduise de façon dictatoriale aujourd'hui.
Ah bon ?
Ah ouais, mais c'est pas vraiment ma faute, vous allez comprendre.
Bon ?
Lise,
oui.
Notre invité dans son enfance passait ses vacances en Normandie. Est-ce que dans votre besace, il y a un petit site remarquable à visiter ?
Et oui, on va aller dans un musée, celui de l'imprimerie typographique qui se trouve à Condé-sur-Noireau dans le Calvados.
Parfait. Et Olivier, je sens que votre choix gastronomique ne sera pas pour moi aujourd'hui.
Non, je me suis pas creusé beaucoup la tête parce que qui dit camembert, qui dit Normandie, dit camembert.
Vous avez coupé votre
vanne.
Bravo, ça commence bien.
On va parler camembert, voilà. Bien sûr. Et je ne vous en ferai pas manger et on expliquera tout à l'heure pourquoi.
Ouais, et on va terminer l'émission avec une nouvelle recette. Cette semaine, c'est une spéciale salade avec un vrai faux des fourneaux aussi. Quelle est la question du jour ?
Alors, faut-il chambrer ces vins rouges ? Vous savez, les mettre à la température de la pièce. On dit toujours les vins blancs au frigo,
ouais.
Et les vins rouges chambré.
Bon, on va voir
c'est une bonne
si
idée.
C'est vrai ou pas.
Et j'ai une petite surprise pour vous en fin d'émission.
Oui, je sais
on
que vous manigancez quelque chose depuis déjà une bonne demi-heure autour de moi et je ne sais pas ce qui se passe. On va voir ça. Nous avons deux heures pour évoquer tout ça et encore plus. Deux heures en direct au cours desquelles vous pouvez intervenir évidemment en posant des questions à notre invité par exemple, direction Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend avec le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac et Olivier Pouls, je crois que notre invité a l'intention de diriger le monde, mais à ce jour, il est encore comédien. Enfin, tout peut arriver, on ne sait jamais. Cher invité,
on a vu des comédiens aller très très haut.
Exactement. Cher invité, voici quelques sons pour illustrer des instantanés de votre carrière.
Quand je suis tout seul chez moi toute la journée, parce que j'ai un jour de libre pour me reposer, je mange.
Bon Jean-Pierre, c'est quoi le menu du jour ?
Tu sais qu'on reconnaît un homme de qualité à ses chaussures, alors on va voir si les cordonniers sont bien chaussés.
Le rock est devenu votre passion. Vous avez même acheté un rocking chair. Ça vous obsède tellement que la nuit dernière, vous avez fait un drôle de rêve.
Das strangulation mit der Wulten Sektafleten in deiner Stunken.
Un mec en dépression, on peut pas le laisser tout seul. S'il fait une connerie, on s'en voudra toute notre vie.
Putain, t'es con, tu m'as fait peur.
Descends de là.
La persienne est bloquée.
King Kong a été congelé et conservé au Pentagone jusqu'à ce que Donald Trump ordonne à sa secrétaire d'État de le réveiller.
Vous attaquez notre pays.
Bonjour Jonathan Lambert.
Alors ça, caméo,
et oui,
franchement,
vous
merci.
Allez nous expliquer, vous allez nous expliquer. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le club de l'été. Alors sauf à vivre dans une grotte, il sera difficile de ne pas tomber sur vous dans les prochains jours. Le 24 juillet,
oui,
c'est TMC.
Ça sent l'hommage.
Non, pas comme ça. TMC diffuse votre excellent spectacle Looking for Kim. Et le 30 juillet sur M6, on va vous retrouver dans une série hilarante sur M6, la saison 2 de Peplum. Mais avant de parler de tout cela, est-ce que vous pouvez nous décrire...
Et aujourd'hui au cinéma,
vous pouvez me rappeler...
100 kilos d'étoiles, ouais.
100 kilos d'étoiles, très joli film.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous décrypter les sons que vous venez d'entendre ?
Alors, je vais aller en compte à rebours. Et on a fini par Cameo. Donc ça, c'était un groupe dont j'étais fan, je crois que ça doit dater de 84-85.
Oui, c'est ça.
Et c'est l'album Word Up, qui est, me semble-t-il, leur premier album, enfin en tous les cas, qui les a révélés. Et j'étais fou de cet album et de ce son, qui n'a pas vieilli, hein, franchement, on l'écoute.
C'est très bien,
franchement. C'est très très bien produit. Oui. Voilà, Cameo. Après, si on va en arrière, je crois qu'on a entendu la voix de Monsieur Pringle, qui était un truc
exactement.
Que j'écrivais, que je réalisais sur Canal... avec Marc Michaud d'ailleurs, je le salue. Si on va encore un peu plus en arrière, on a entendu Dépression et des potes, le film d'Arnaud Lemort avec Fred Testo, Harry Habitant, Ariel Mallet. Si on a entendu aussi un extrait de King Kong, la série pour Arte
diffusée
réalisée par Stéphane
Caffiorer,
diffusée il y a deux ans, super, c'est un
réussi.
Projet que j'ai adoré. Si on va encore un peu en arrière, on a entendu Jean-Pierre Coff, c'était mes premiers pas à la télé.
Qu'est-ce que vous faisiez avec Jean-Pierre Coff ? C'était déjà sur Canal+.
Non, c'était sur France 2.
Ah, c'était au moment où il a quitté Canal,
et il est arrivé sur France Télévisions. L'émission s'appelait C'est tout Coff, qui avait pour vocation d'être plus axée sur la... comment dire, la consommation. C'est-à-dire, c'était pas forcément la cuisine, c'était plus bien consommer, bien choisir. C'était à la fois l'entretien de la maison, c'était partir en vacances. C'était une émission.
Et là, en l'occurrence, bien choisir ses chaussures.
Là, en l'occurrence, bien choisir ses chaussures. Je pense que c'est parce que j'avais pas les bonnes aux pieds qu'il m'avait dit ça, peut-être. Et puis.
On a entendu un petit bout d'œil de l'AF qu'on adore.
Oui, parce que j'avais réalisé. Bah, c'était avec Monsieur Pringle, d'ailleurs, le clip. Dol de Laf, je mange, qui est aussi une chanson très entêtante mais que j'aime beaucoup.
C'est très réussi tout ça. Vous aimez le dictateur de Chaplin? Ah oui, on a entendu Chaplin, pardon. C'était
bien sûr.
Des extraits. Ouais. Vous savez ce discours totalement surréaliste. Vous aimez donc le dictateur de Chaplin. Vous incarnez un empereur pas super cool dans Péplum. Néron, Hitler et Staline sont les sujets de votre spectacle. Vous avez côtoyé un alias de Kim Jong-un dans King Kong sur Arte. Est-ce que prendre le pouvoir est un fantasme ou une réelle envie de votre part?
Non, mais c'est ce que je dis en préambule. Enfin, je dis, enfant, je disais toujours, plus tard, je veux être dictateur. Partant de ce principe, j'ai raté ma vie. Évidemment, non, mais il y a toujours ce délire de. Enfin, peut-être que c'est très personnel, d'autoritarisme. Enfin, on se rêve comme ça. Notamment, d'ailleurs, dans Péplum, quand j'ai interprété ce César d'opérette qui est quand même con comme une valise, mais qui a ses pleins pouvoirs. Et il y a quelque chose d'assez jubilatoire de dire allez, toi, va me chercher un café.
Oui.
Même s'il
ne
faut pas le faire, c'est
oui.
pas mal.
Mais voilà. D'accord, vous voulez un café peut-être?
Non,
d'accord. Vous pouvez le dire comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, je me suis demandé à incarner autant de personnages. Alors, on vient de parler de ces personnages-là, mais tous les personnages que vous avez pu faire. On avait entendu aussi le générique d'On n'est pas couché, dont on a oublié de parler, où vous avez fait hurler de rire le samedi soir, même à minuit, ça, c'était toujours très drôle. Incarner autant de personnages, souvent dingo, est-ce que parfois vous souffrez de troubles de la personnalité?
Non, pas du tout. Non, mais moi je trouve ça assez génial dans ce métier de comédien, de pouvoir pendant un instant T, alors ça peut être 5 minutes, ça peut être le temps d'un tournage, s'investir à fond dans un personnage, mais d'avoir une sorte de partir en vacances dans une autre personnalité. C'est très très agréable, parce que ça permet d'être, je le disais, donc très méchant, très autoritaire, oui. ou alors très con, je l'ai été aussi, ou très laid, ou très baveux, ou très ce qu'on veut, ou d'être une femme, ou d'être une personne âgée, ou d'être un enfant, ou d'être une chose, parce que j'ai aussi été une valise. Non, mais c'est partir en vacances, l'espace le moment du sketch ou du film, ou d'une pièce de théâtre, et c'est sinon jouer ce qu'on est, ça devient du documentaire, mais c'est pas très, enfin moi ça m'intéresse pas, d'ailleurs je pense que ma vie n'a aucun intérêt.
Mais est-ce qu'il y a un personnage qui vous ressemble au fond, dans tous les personnages que vous avez incarnés jusqu'à présent?
La valise.
C'est l'esprit ça, quand même, dire ça.
Très honnêtement, j'espère pas.
D'accord.
C'est une sorte de défouloir, donc ça me va très très bien comme ça.
Eh bien, nous avons jusqu'à 11h pour revenir sur votre carrière, pour nous défouler, puis revenir aussi évidemment sur votre actualité. Je vous propose une première parenthèse musicale avec la pop sucrée de Mika et son dernier titre Ice Cream sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1, Eva Rock. Le club de l'été sur Europe 1, 9h, 11h. Eva Rock.
Et il est 9h22, nous sommes en direct sur Europe 1 pour votre rendez-vous estival, le club de l'été. Olivier Pouls, ne riez pas, oui, j'ai donné la bonne heure ce matin. Notre invité du jour est le comédien Jonathan Lambert. Jonathan, vous avez vu, je voudrais être dictatorial, ça ne marche pas avec cette équipe.
Mais pas du tout.
Qui n'a aucun respect pour moi. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Avec Lise, on va relayer vos messages et vos questions également. Jonathan Lambert, nous en parlions, vous êtes entouré de dictateurs sur scène et sur écran. Vous en parliez tout à l'heure aussi, est-ce que vous étiez un enfant tyrannique? Vous aviez juste envie d'être tyran?
Non, franchement, c'est très difficile de parler de soi parce qu'on n'a pas le recul. Il faudrait demander à mes parents ou aux copains et copines qui m'ont connu quand j'étais petit, mais je ne crois pas.
Vous non, étiez sage?
Ouais, plutôt sage.
Ouais.
Sage, voire même, je vais vous dire, un peu sage de façade, un peu très mielleux avec les profs, un peu focus.
Un peu focus.
juste pour avoir la moyenne, quoi.
Olivier Pouls.
Mais alors, qu'est-ce qui vous fascine dans cet univers des dictateurs? C'est vrai que ce sont tous des personnages de romans, enfin, ils sont extraordinaires au sens littéral du terme. Qu'est-ce qui vous fascine chez eux?
Ce qui me fascine, justement, il n'y a pas que moi qui suis fasciné, parce que j'avais lu notamment dans toute la doc que j'avais parcouru, et à chaque fois qu'il y a une émission télé, un doc, un portrait sur les dictateurs, ça assure des cartons d'audience. Ça et les serial killers. Donc, je pense que...
En général, ils sont un peu les deux, d'ailleurs.
Oui, mais je pense que ce qui nous fascine, c'est que ce sont des êtres humains au départ, et on n'arrive pas à comprendre quel est le déclic, et qu'est-ce qui fait que... D'autant qu'il y a autant de parcours que de dictateur, hein, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à chaque fois, c'est un enfant brimé ou qui a été battu ou qui a connu la violence. Non, il y a des enfants qui ont grandi, qui ont été chéris dans une famille et un univers très équilibré, qui sont devenus dictateurs. Donc, je pense que ce qui nous fascine, c'est de se dire, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là ?
Est-ce que vous en avez rencontré beaucoup des dictateurs au cours de votre carrière ? Dans votre carrière.
Des dictateurs de, voilà,
oui, de bureau, pacotille un
de
peu,
pacotille.
Ouais.
De... Non, non, j'ai eu cette chance.
Alors, vous avez créé Looking for Kim en 2016. Est-ce que vous allez continuer d'abord à jouer ce spectacle ou l'aventure est terminée pour
vous ? Non, j'ai joué la dernière fois, c'était le 6 juin à Édouard VII. C'était une super dernière. Et puis, voilà, le spectacle, on va pouvoir le voir, effectivement, donc, sur TMC. C'est le 24 juillet.
Le 24 juillet, exactement,
et
à 21h.
C'est une captation qu'on avait réalisée du reste par Serge Calfon au Trianon. Et il y a une scénographie assez sympa parce que je me suis fait plaisir. Évidemment, ça donne plein d'idées pour arriver en. Grand appareil.
Mais alors, à quel moment on décide d'arrêter un spectacle qui marche ? Je me suis toujours posé cette question. Quel jour vous vous dites, bon allez, c'est la dernière date, on arrête.
Alors,
je sors de tout ce projet que j'ai porté pendant des années.
Déjà, en montant sur scène à Édouard VII, je savais que c'était la dernière. Et j'étais très, très, très heureux que ça se soit si bien passé. Mm-hmm. Parce que mieux vaut faire envie que pitié. Et s'arrêter sur quelque chose, c'est-à-dire que c'est un bon souvenir. C'est comme chez Laurent Ruquier, j'ai passé 4 années merveilleuses, et puis tout d'un coup, je me suis dit, j'ai peur de faire l'année trop. Donc j'ai dit à Laurent et Catherine, j'ai dit, écoutez, voilà, je crois
Catherine
que je vais
Barma,
m'arrêter,
la productrice.
Catherine Barma, parce que c'est génial. Enfin, moi, je prends un pied total, je sais que vous êtes content, tout le monde est content, et voilà, aujourd'hui, parfois, les gens me disent, alors, vous continuez à Ruquier, alors que ça fait des années,
et
je leur dis, non, vous manquez, je me dis, tant mieux, moi aussi, ça manque, sincèrement. Mais voilà, c'est toujours dommage de dire, ça tourne un peu en rond, donc je préfère m'arrêter sur... Mais effectivement, ce sont des questions, parfois, c'est difficile de se dire, allez, j'arrête quand on prend encore son pied, mais ça permet d'aller chercher, de donner de nouvelles directions pour la suite.
Alors, les téléspectateurs vont pouvoir le découvrir, on le disait, le 24 juillet sur TMC à 21h. On va faire quelque chose que je n'aime pas trop faire, c'est-à-dire on va passer un extrait de votre spectacle. C'est toujours un peu compliqué parce que ça ne donne pas forcément le reflet exact de ce que vous pourrez voir à la télé, mais voilà ce que ça donne, Looking for Kim.
Ah, non ! Si seulement il était resté peintre !
Ah oui, tout est parti de là pour Hitler, hein. C'est un artiste raté, incompris dans le meilleur des cas, qui a fait de sa rancune et de son aigreur un génocide. Je vais vous dire, depuis que j'ai appris ça, à chaque fois que mon fils fait un dessin, j'ose pas lui dire que c'est moche.
Et c'est vrai, c'est vrai. Jonathan Lambert, dans le club de l'été, on aime bien mettre nos sens en éveil. Imaginons qu'on soit à quelques secondes justement d'une représentation de Looking for Kim. Vous voyez, vous êtes juste derrière le rideau ou en tout cas dans les coulisses. Mm-hmm. Quelle est l'odeur que vous sentez ?
L'odeur ?
Ouais.
Quoi, genre je me suis fait pipi dessus?
Non, parce que j'ai... Vous voulez forcément la voir.
Est-ce
que le théâtre a une odeur? Est-ce
alors,
que c'est le
honnêtement,
bois
ah non, sincèrement, déjà je veux dire, ça dépend dans quel salon on joue, parce qu'on peut être amené à jouer dans des théâtres qui sont très anciens, alors oui, ça va peut-être sentir le bois, en tous les cas la cire, le vieux velours ou la vieille dame. ça peut être une salle beaucoup plus moderne, donc oui, ça a forcément. Non, alors honnêtement,
Et vous regardez
vous en...
par le petit trou du rideau, vous êtes du genre
non,
à observer la
non,
salle avant de démarrer.
Il y en a beaucoup qui le font. Ouais. Moi, j'aime pas. J'aime bien découvrir et parce que sinon, on se fait des idées. On regarde, on se dit ah oui, ils ont cette gueule là. Oui, ils ont plutôt l'air de faire la gueule. Ah oui, non, ils ont l'air plutôt cool. Et parfois, ce sont des fausses idées. Donc, je préfère me dire.
Tiens, la fille au deuxième rang est très mignonne.
Et le dernier son que vous entendez avant de monter sur scène ?
Alors, il m'arrive d'écouter de la musique, en revanche, pour me détendre. C'est-à-dire que je mets mes écouteurs et j'écoute de la musique bien, bien fort.
Et qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Il n'y a pas dans la playlist de Jonathan Lambert ?
Il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'on a parlé de Cameo tout à l'heure. Ça peut être du rock, ça peut être du Rage Against the Machine, d'ailleurs, qui sert un petit peu l'intro. Mais ça peut être aussi du Chopin. Donc, vous voyez, on fait le grand écart.
Et comment vous faites pour choisir ? C'est au hasard de la playlist qui déclenche ? Je ne sais pas, vous n'avez pas.
J'aime bien me laisser guider par l'inconnu.
D'accord, vous vous laissez guider par nous pendant ces deux heures. D'accord, c'est parfait. Dans
vous
un instant,
blanc,
vous n'allez pas être déçu.
Vous n'allez pas être déçu. Dans un instant, Jonathan Lambert, vous allez nous faire partager un coup de cœur pour un livre. Et de notre côté, nous avons craqué sur un film et un comédien en particulier. Sergi Lopez sera avec nous. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 avec Chopin.
Ah oui,
vous avez vu ça? Pour le club de l'été, en présence de notre invité VIP, Jonathan Lambert. Jonathan, lors de la préparation de cette émission, Nous vous avons demandé quel était votre dernier coup de cœur et vous nous avez répondu « Ivoire » de Niels Labuzan, édité chez Jean-Claude Lattès, que j'ai entre les mains. Un voyage au Botswana, au plus près des rangers engagés dans la préservation des espèces sauvages et de leur territoire. Pourquoi ce choix ?
Alors, honnêtement, parce qu'il me l'a envoyé, on s'est rencontrés parce qu'il avait écrit un premier roman qui avait eu le prix de la Bastide de Gordes. On s'était rencontrés à cette occasion. Et donc, il me l'a envoyé. Et je lis toujours ce qu'on m'envoie. Alors, ça prend du temps parfois. Je suis tombé complètement pris par ce film, ce récit. Non, mais c'est intéressant ce que je dis, parce que c'est très
visuel.
C'est très visuel, très cinématographique. La façon dont il décrit, et c'est un territoire qu'il connaît bien, enfin, l'Afrique en général, les animaux, les réserves, les parcs. Et c'est très intéressant parce que ça parle d'un sujet qu'on connaît peu. Et ça m'a fait penser un petit peu, c'est-à-dire qu'il crée un thriller autour du trafic d'ivoire. Donc c'est quelque chose, quand on parle trafic, nous en France, on entend armes, drogue, tout ça. Et vous savez, comme ce film qui avait été formidable, qui s'appelait Bullhead, qui était sur fond de trafic d'hormones bovines, on se dit, waouh, c'est super pointu. Et en fait, à partir d'un sujet qui est quand même marginal pour nous, en tous les cas, il en fait quelque chose de beaucoup plus universel. Et voilà, ce sont des destins, des personnages qui se croisent, qui s'entrecroisent sur fond de trafic d'ivoire. Et c'est formidable. Et surtout pour l'été, où on aime bien des récits, des romans qui vous permettent de vous évader, de voyager. Vraiment, je le recommande, c'est formidable.
Ça s'appelle Ivoire, c'est signé Niels Labuzan. Si vous allez au cinéma, c'est pas Jonathan Lambert qui pourra nous dire qu'il a eu un coup de cœur pour ce film, parce qu'il joue dedans. Mais on vous le conseille aussi. Ça s'appelle 100 kilos d'étoiles de Marie-Sophie Chambon. Ça sort aujourd'hui.
J'ai une participation.
Vous avez une participation.
C'est pour ça que je dis, pour les gens qui m'aiment, le film est formidable. Et pour les gens qui ne m'aiment pas, ils pourront quand même voir. C'est très rapide.
Ça parle de conquête spatiale par une jeune fille qui espère devenir astronaute de mission Apollon qu'on n'arrête pas de célébrer à juste titre. Ça fera du bien aussi. Avec l'équipe du Club de l'été, Jonathan Lambert, on souhaitait mettre en avant aussi un film qui sort en salle. On part aussi en Afrique. C'est un film espagnol pourtant qui est porté par un duo qui incarne un père et une fille. Ce duo est incarné par Elena Andrada et Sergi Lopez. Bonjour Sergi Lopez.
Salut, bonjour, ça va ?
Oui, très bien, et vous ?
Qu'est-ce que
ça va bien, ça va bien, ça va très bien.
Merci infiniment d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous incarnez donc un papa divorcé qui décide d'emmener ses deux enfants, dont sa fille de 17 ans, dans un club hôtel au Sénégal. Alors c'est une ado qui est presque femme, qui va préférer côtoyer le personnel d'établissement plutôt que de partir en excursion avec son père. C'est un très très beau film sur la relation père-fille. Sergi Lopez, est-ce qu'on puise forcément dans sa vie personnelle quand on fait un tel, quand on incarne un tel personnage, vous qui êtes papa déjà aussi ?
Quand on joue, même si on ne veut pas, on transporte plein de trucs, plein de casseroles avec nous. Et c'est vrai, dans ces cas-là, j'ai une fille de 23 ans, enfin, j'ai aussi un garçon de 21, mais c'est vrai que cet regard d'une fille qui a 18 ans, qui regarde son père comme si son père comprenait rien à la vie.
Oui.
C'est un regard que je connais.
Mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une scène qui vous a marqué en particulier dans le film, quand on vous voit avec votre fille?
Ben oui, forcément.
Oui.
Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est une scène que j'espère que ça ne va pas trop traumatiser le spectateur. Non, parce que c'est une scène qui m'a marqué, moi, parce que, en fait, finalement, c'est un drôle de métier, c'est ce qu'on fait. Tu vois, parce que quand on lit les scénarios, je vois bien un père qui est là-bas et qui, en fait, qui a pas de complexe et qui essaie de partager ça avec ses enfants et qui arrive à faire des danses africaines ridicules avec son corps athlétique, tu vois. Et c'est vrai que quand tu lis ça, c'est drôle, c'est touchant. Et puis quand tu dois le faire, que c'est ton corps qu'on voit
à l'écran, oui.
Oui, bon, c'est un peu, Donc, ça m'a coûté, cher de le faire. Mais après, à voir, c'est vrai que je trouve que c'est un personnage très touchant.
Oui.
Et c'est surtout elle, qu'on voit dans le film, c'est le regard de cette fille qui est en train de découvrir qu'est-ce que c'est d'être une femme, qu'est-ce que c'est d'être une adulte, qu'est-ce que c'est d'être différent. Et qu'est-ce que c'est d'être une fille, un drôle de père, quand même.
Vous formez un très, très beau duo avec Elena Andrada, ouais. Sergi Lopez. Est-ce que vous avez découvert un coin de l'Afrique grâce à ce film ?
Si. C'est la première fois. C'est incroyable parce que j'ai plein de copains, de copines, des amis de référence africaine, mais j'avais jamais été en Afrique du Nord. c'est la première fois que je suis allé au Sénégal et c'est vrai que c'est un peu débordant parce que enfin, ça donne tout de suite envie de revenir, surtout au Sénégal où les gens sont d'un accueil généreux, spontané, fou, quoi. Oui, c'est fou. J'ai découvert un endroit, on était à Sali, à côté d'Hambourg, dans la région de Dakar. Et voilà, c'est sûr comme on va retourner.
Sergi Lopez, vous êtes, je dois dire, espagnol ou catalan ?
Moi, je suis catalan.
Vous êtes catalan. vous êtes catalan, mais vous parlez combien de langues ? Est-ce que vous avez une idée ?
Bien. Je parle espagnol, catalan et français avec un accent. Voilà.
Ah, c'est
italien,
tout ?
Italien, anglais, tout ça, c'est... Oui, j'ai un peu, mais oui, parce que j'ai pas honte, tu vois.
Oui. Est-ce que vous pourriez...
Juste pour la drague.
Juste pour la drague. Oui, c'est Jonathan Lambert qui dit juste pour la drague, en fait. Vous parlez italien.
Oui, ouais. Non, pas pour la drague, mais pas, en général, pas pour les filles, les gars.
Oui.
Mais pour communiquer, c'est vrai que quand tu n'as pas honte de te tromper, de parler mal peut-être, et que tu privilégies la communication, après tu te lances et tu parles mal, mais tu parles quand même. Hein.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en catalan « Bonjour le club de l'été » ?
Bon dia, le club de l'été, j'ai traduit aussi ou c'est
un... Ah bah oui, allez-y, oui, on rigole un peu, ouais.
Bon dia, le club de l'été.
D'accord. Et en espagnol, ça donnerait quoi si vous acceptez de parler espagnol ?
Club del verano.
Merci infiniment, Sergi Lopez, d'avoir été avec nous ce matin. Le film s'appelle Le Voyage de Martha. Ça sort en salle aujourd'hui. C'est un très, très beau film que je recommande chaudement. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Dans un instant, on va continuer à parcourir la liste de nos envies avec un autre coup de cœur pour Peplum. La série diffusée sur M6 est portée par Jonathan Lambert. Ça arrive le 30 juillet. Oui, entre autres, on va citer tout le casting, vous allez voir. Enfin, pas tous parce que vous êtes trop nombreux. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
2 heures de direct tous les matins, de 9h à 11h avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. C'est ça, le club de l'été d'Europe 1. Et comme tous les matins, nous avons un invité de marque, en l'occurrence Jonathan Lambert. Jonathan, le 30 juillet, M6 va proposer donc la saison 2 de la série Peplum. Les 6 premiers épisodes avaient été diffusés en 2015. Si vous avez aimé Game of Thrones, si vous avez aimé Kaamelott, vous allez adorer Peplum. Ou comment parodier ce genre cinématographique ? Jonathan Lambert, vous êtes l'empereur Maximus et vous êtes un peu
très
inquiet.
Con.
Oui, très con et un peu inquiet. Enfin, presque inquiet.
C'est quoi ça ?
Je crois qu'on n'est pas loin de l'insurrection, là.
Ah, c'est grave ?
Non, mais faut pas se biler. Une de plus, une de moins.
Mais ils veulent quoi, tous ces gars ?
Si on savait. Il n'y en a pas un qui veut la même chose.
Bon, bah, c'est pas bien méchant, quoi.
Non, 2-3 échauffourées parce qu'on est un peu courant pain, mais c'est tout.
Évidemment, on ne pense absolument pas à la crise des Gilets jaunes quand on écoute cet extrait qui est en début de premier épisode. Nous sommes d'accord.
C'est vrai qu'il y a toujours des résonances, mais après, c'est ce qu'on veut. On peut toujours réactualiser les choses et trouver. Voilà, parce que quand on l'a tourné, on a tourné ça en Bulgarie l'année dernière, l'été dernier, et voilà, il n'y avait pas l'intention. Après, vous savez, quand on décrit le pouvoir, les arcanes du pouvoir,
c'est
finalement,
pareil.
Le sujet tourne toujours en rond. Voilà, c'est ceux qui abusent.
L'histoire est un éternel recommencement.
Ouais, voilà, ouais, ouais. On est bien d'accord. Et alors, sur ce, il y a un mariage avec Cléopâtre IX. Qui est envisagé avec vous, Maximus.
Nadia Rose.
Voilà, Nadia Rose. Mais Cléopâtre, elle a un fichu caractère et votre entourage commence vraiment à saturer de ses exigences.
J'ai traversé les déserts, les dangers, les mystères, les forêts. Et toi, tu me dis qu'il n'y a pas de pachyderme ?
Non, il n'y a pas de pachyderme.
Chie !
Il n'y a pas facile. Putain, tu sais qu'elle me rappelle quand elle fait ça. Je veux ça. Tu sais qu'elle me rappelle.
Ma femme.
Ta femme. Ah, la même, c'est la même. Donc t'as la même au boulot et à la maison.
Ah non, moi la mienne, j'ai vendue.
Ah ouais.
Et je me suis racheté une neuve. Et là, maintenant. Je me régale.
Putain, t'as la belle vie.
Je t'offre un verre ?
Non, je peux pas, faut que je trouve des tigres.
Bah, tu m'as dit que t'en
avais. Mais j'ai pas de tigres, enfin, j'ai des stock-ou, c'est des chiens que j'ai peints, s'ils pleurent, on est baisés. C'est même pas des chiens errants, dégueulasses.
Peins des chiens, toi.
Bah, les gars, tu me fasses peur.
Baptiste Le Caplain et Philippe Bieu.
Exactement, et la formidable Nadia Rose qui interprète Cléopâtre.
Extraordinaire.
Non, vraiment, j'ai un coup de cœur pour cette fille, vraiment.
Elle est là, non, mais elle est éblouissante parce que tout devient drôle, et puis elle est pétillante, elle est. Moi, j'étais très, très heureux de la retrouver parce que
En fait, ça fait plusieurs fois que vous vous croisez.
Oui, mais c'était surtout, en fait, dans la première saison, il y avait plusieurs guests. Et c'est vrai qu'avec elle, dans le rôle de Cléopâtre, il y a eu une étincelle. On était voilà, très, très heureux. C'était très, très drôle. C'est pas moi, en plus, enfin, je suis pas le seul à le dire. C'est la prod, tout ça. Et quand on a réfléchi à une suite, très vite, elle s'est imposée dans l'idée de, voilà, de faire une sorte de rapprochement Cléopâtre-César. C'est elle qui a co-écrit, hein, du reste, ces épisodes, il faut
le dire. Et c'est réalisé par Maurice Barthélémy, qu'on voit aussi apparaître au cours des deux épisodes en question. Alors également au casting, Eric Elmosnino, qui est mais extraordinaire.
Ah oui, parce qu'il est dans la vérité, la sincérité, c'est-à-dire entouré de tous ces bras cassés,
c'est le seul qui a un peu construit. Oui.
Voilà, que ce soit le personnage de Philippe Bieu, alors moi on n'en parle pas, mais même Nadia, elle est complètement à côté de ses sandales. Et lui, il joue droit, il a quelque chose de... Alors, on s'identifie finalement le plus à ce personnage, avec des problématiques très actuelles, ses enfants, un peu les crises d'adolescence, sa femme, le machin.
On y revient toujours.
Ouais. Hein. Parce qu'on a l'impression finalement que ça n'existait pas dans le temps, mais bien sûr qu'ils ont connu les mêmes soucis.
Bien sûr, exactement. Ouais, non, c'est ça qui est assez drôle.
Ah oui, j'ai oublié de rappeler qu'on est en 247 après Jésus-Christ, si je ne me trompe pas.
Je le savais même
pas. Oui, c'est on s'est dit au début de la série, Eric Elmosnino, pardon, est marié à Julie Ferrier. C'est vous ça. Verrez aussi Michel Larocque ou encore Elie Semoun qui essaye de faire un coup d'État contre vous.
Bon, le félon. Il le joue tellement bien.
Et il le joue très, très bien.
Très bien.
Question un peu bateau, mais est-ce que le tournage a été aussi délirant que le scénario ? Parce que vraiment, quand on regarde ces deux épisodes de 52 minutes, on se dit qu'ils ont été obligés de se marrer, c'est pas possible.
Oui, bien sûr, mais au-delà de ça, il y a un truc qui est très très jubilatoire. C'est, je pense que quand on est comédien, le western et le peplum, c'est quand même les genres absolus du cinéma.
Vous adorez jouer en costume. Ouais.
Bah oui, c'est le mythe du grand cinéma hollywoodien, de ce qui nous a construit, de ce qui nous a fait rêver, enfin dans notre culture un peu occidentale. Voilà, le peplum et le western. Et je vous assure que quand on essaye les costumes, c'est comme des gamins qui vont à un anniversaire déguisé, quoi. On est mais comme des fous, t'as vu ma toge, t'as vu mes sandales, on apprend à marcher comme ci, comme ça.
En parlant de ça, Jonathan Lambert, vous avez de très jolies gambettes.
Non, c'est surtout celle d'Eric.
Oui, mais quand même, on voit les vôtres aussi.
Les miennes sont pas trop mal, je me débrouille.
Voilà, parce que Cléopâtre, elle aime beaucoup les mollets.
Voilà, c'est ça, c'est son kiff, c'est elle choisit un peu sur les mollets. Ouais.
C'est important, les mollets.
La chaîne M6 avait annoncé une suite donc en 2015 à la série qui avait très bien marché. Il pensait faire une suite avec des épisodes courts de 3 minutes 30. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve finalement avec deux épisodes de 52 minutes ?
Oui, non, en fait, je pense que ce qui avait un petit peu... comment dire ? C'était pas évident de faire rentrer dans des soirées de prime une écriture un peu sketch. C'est-à-dire que c'était des modules.
C'est net,
même,
hein,
c'était, même si c'était à peu près du 26 minutes, mais ça ressemblait plusieurs sketchs sur une même thématique. Et ensuite, ça devenait, me semble-t-il, un petit peu trop long, voire même indigeste, de se cogner presque 2 heures de programme avec non pas une histoire, un récit qui puisse vous tenir sur la longueur, mais simplement une succession de situations aussi drôles soient-elles. Donc l'idée, si on repartait sur une soirée comme ça, prime, c'était d'écrire pour le coup une véritable histoire et d'en faire finalement une sorte de téléfilm.
Exactement, mais très séquencé aussi, on retrouve cet esprit. Est-ce que j'ai rêvé ou j'ai vu François Baroin ? À un moment donné.
Ah oui, alors effectivement, il y a une sorte de. Comme ça, comme une image virtuelle.
On est d'accord.
En fait, c'est un figurant qui lui ressemblait énormément. Et,
non, vous plaisantez.
Et Maurice a dit je vais faire un plan sur lui parce que ça va susciter une sorte d'interrogation.
Non,
de,
c'est pas vrai.
De mythologie. Bah, je donne rendez-vous aux téléspectateurs, ils jugeront d'eux-mêmes.
Et vous avez vu, je fais quand même du bon teasing parce que vous êtes obligé de regarder jusqu'à la dernière seconde des
en
deux
plus,
épisodes.
Ouais, c'est plutôt à la fin, ouais.
Est-ce que vous avez des projets en télévision pour la rentrée ?
Je viens de tourner une série pour France Télé, produite par Éléphant, voilà, avec un super cast. Encore une fois, je suis gâté avec.
Dans l'esprit de Fais pas ci, fais pas ça.
Oui, c'est ça, d'accord. C'est ça. C'est un peu c'est Philippe Lefebvre qui réalise. Il y a Fred Testo, Linda Nfam, Amel Chabi. Voilà, j'en oublie. Et m'excuseront. Voilà, on est plusieurs. Philippe Lefebvre qui joue dedans aussi. Eva Darlan.
Donc on imagine que c'est le ton de la comédie.
Effectivement, c'est un fais pas ci, fais pas ça un peu plus actuelle, dans la mesure où la série, elle est née il y a plus de 10 ans maintenant, elle est plus diffusée, et donc avec des problématiques, des enjeux, enfin voilà, des thèmes, des sujets sociétaux qui sont plus d'actualité. C'est vraiment, enfin l'écriture, c'est génial. C'est
alors,
génial.
Mais est-ce qu'on vous revoit aussi dans une émission de type quotidien comme on vous a vu récemment, ou dans un autre
talk? Moi, la télé, j'adore ça.
Vous avez commencé par ça, ce qui est plutôt rare, parce que généralement, on commence par la scène
pour finir
à la télé, et vous avez fait le chemin inverse.
Et moi, en fait, et c'est à l'époque de comédie, la grosse émission. C'était tourné dans un théâtre.
Ouais.
en public donc, et en direct. Et ce rapport de la scène face à, qui était donc vraiment un entre-deux, m'a vraiment donné envie de monter sur scène. Mais la télé, c'est un exercice que j'adore. Me dire que voilà, pendant, quand on est en direct notamment, et que pendant, on a une, deux, trois minutes pour faire rire, il faut être efficace et on va toucher le plus grand nombre à ce moment-là. Je trouve qu'il y a un truc qui est quand même très, très, très excitant.
Et alors, quand on parle de télévision et d'écran plutôt, il y a une de vos séries préférées qui est ça.
Ah, même la musique.
On est d'accord.
C'était la sonnerie de mon portable d'ailleurs.
C'est vrai, on est d'accord, même la musique.
Olivier Poulx, ça vous dit quelque chose ou pas? Je crois Thomas Newman.
Lise Pressac, non? Six Feet Under.
Ah oui.
Série incroyable, diffusée entre 2001 et 2005 déjà aux États-Unis. Je pourrais vous épouser pour avoir choisi cette série, Jonathan Lambert.
Écoutez, allons-y, la mairie est pas loin. Il y a juste deux, trois papelards à
rencontrer. Oui, mais écoute, l'enfant...
C'est l'été, il va être en recherche active. Hein.
Même à l'année. Hein. On va être totalement nés. Combien d'enfants vous avez?
Trois.
Oui, voilà.
Il faut prendre le paquet. Hein.
Oui, et en plus, ils sont au moment de l'adolescence, si j'ai bien compris.
Il y a un peu tout.
Il y a un peu tout.
Il y a même un vieux.
Elle va attendre encore 4-5 ans. Alors.
C'est la vie quotidienne d'une entreprise de pompes funèbres. Je parle de Six Feet Under, hein, évidemment. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette série?
Mais c'est ça, c'est que vous l'avez dit, le sujet dit comme ça, finalement c'est une chronique hein, d'une famille un peu middle class à Los Angeles, et c'est chacun à son parcours. Il y a deux frangins, ils tiennent une société de pompes funèbres, donc ça démarre toujours sur, entre guillemets,
sur un
nouveau
mort.
Client, voilà, et la façon dont il arrive dans la société. Donc il y a quelque chose d'assez macabre, mais très drôle d'humour noir. Mais on est, et il y a une sœur aussi, et on est pris dans cette famille au bout d'un moment. Mais je vous jure que quand il y a eu le dernier épisode, des larmes sont montées. Déjà, en plus, il y a un truc que j'adorais, parce qu'il y a un truc qui me fait chier dans la série, c'est qu'on est un peu pris en otage. Dès que ça fonctionne, ils vont jusqu'à la série 8, 9, 10, voire plus. Et à un moment donné, ça me gonfle. Et là, ils se sont arrêtés, donc je crois, à 5.
Oui, ils se sont arrêtés au bon moment.
Et c'est vraiment l'équilibre parfait.
Oui.
Parce que, voilà, on a fait partie de cette famille pendant 5 ans. Et je pense que beaucoup l'ont vu, mais c'est formidable. Quoi. En acting, c'est génial.
Comme vous, il s'arrête avant que ça devienne ennuyeux.
Oui, sincèrement, j'ai trouvé ça génial de se dire le dernier épisode, en plus, est à la mesure de tout ce qu'on a subi pendant 5 années. C'est génial.
Les amis, Olivier Poulx, c'est Lise Pressac, j'ai la prétention de bien vous connaître.
Ah.
Je pense que vous allez adorer Six Feet Under. Il faut vraiment que vous regardiez cette série. Et je vous rembourse si vous n'êtes pas, content.
Très bien.
Parce qu'évidemment, vous allez la télécharger légalement.
Bien sûr.
Jonathan Lambert, dans un instant, c'est Elsa Lévy qui se plonge dans la presse féminine et ça mériterait presque un spectacle, franchement. Auparavant, encore de la musique avec une voix que nous adorons. C'est celle de Camélia Jordana. Elle chante Dans la peau et c'est sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Et il est 9h, presque 9h54. Vous êtes sur Europe 1 et jusqu'à 11h, c'est votre club de l'été avec notre invité Jonathan Lambert. Jonathan, je vous présente Elsa Lévy.
Bonjour.
Bonjour Elsa, vous passez votre temps le nez plongé dans la presse féminine. Et
quelle
vous
occupation.
Avez. Quelle occupation? Ben heureusement qu'elle est là parce que nous, on ne le fait pas. Et vous avez repéré des articles passionnants.
Enfin, absolument.
Ouais, on va dire ça comme ça, voilà.
Alors, Jonathan Lambert, vous êtes. Ah non, mais fais pas ça maintenant.
Non, parce qu'il faut que vous rapprochiez de votre micro. C'est pas
parce
que
j'étais
là.
C'est
juste pour que j'entende
plus. Pardon, je voyais plus mon texte. Ça y est, je reviens. Jonathan Lambert, vous n'êtes pas en vacances, n'est-ce pas?
Non, pas tout. Enfin, un peu dans ma tête, j'ai toujours été en vacances.
Ah bon,
mais...
On ne peut pas répondre ça.
Ah,
Eva, vous n'êtes pas
non,
en vacances.
Non, je ne suis pas du tout. Je suis à fond. Pardon. Merde.
Bon, Eva,
non,
Olivier,
on n'est pas en vacances.
Donc ça,
non,
on n'est pas en vacances.
Surtout
dans la tête. Parce que Cosmopolitan pense à ceux qui ne sont pas encore partis avec cet article « Je me mets en mode vacances ». Alors, il y a une trentaine de trucs qu'on peut faire pour justement avoir l'impression d'être en vacances.
D'ailleurs,
alors qu'on est
pardon,
au boulot.
On dit oui. Cosmo ou quand
oui,
on le lit, on dit Cosmo ou Cosmopolitan?
Bon, moi, je ne passe
Cosmo.
Pas trop en société.
D'accord.
Je dis Cosmopolitan. J'hésite. Alors, par exemple, je lis un exemple. On écoute 107.7 au petit-déj, un petit Gilbert Montagnier, et on a presque envie de demander à quelle distance se trouve la prochaine aire d'autoroute.
Alors, voilà. On écoute Europe 1, et puis
déjà,
voilà. Et...
Alors, je ne sais pas comment on dit Cosmo, mais en tout cas, je pense que dans la rédaction, ils ne... Voilà, ils sont, je ne sais pas à quoi ils tournent, mais à mon avis, ils devraient changer de dealer, parce qu'on est quand même sur certaines dimensions. Ou encore, on nous dit, on appelle les pigeons des mouettes, on aura peut-être l'air un peu perché, mais ça aide pour l'ambiance. Non, je pense qu'on aura l'air juste complètement con.
Ah bah oui, on est d'accord.
Aussi, on c'est nous propose écrit, de remplacer...
Il y a des pigeons blancs parfois, ils sont rares. Hein.
Oui, mais ça prête à confusion,
ouais,
goéland.
Oui.
On nous propose aussi de remplacer nos coussins par des bouées pleins de couleurs, ambiance Club Mickey à l'appart. Oui, alors ils sont très Disney dans Cosmopolitan. Par exemple, il y a un truc récurrent, c'est le test « Quelle princesse se cache en vous ?». Alors je l'ai fait, hein, je suis payée pour ça. Et pour info, je ne suis pas Pocahontas ni Blanche-Neige, non, je suis dégoûtée, je suis Mulan. Et ce qu'il a...
Je l'aime pas. Faut le refaire.
En trichant.
Et ce qui la caractérise, c'est de réussir ses gâteaux. Voilà ce qui est archi faux, surtout qu'à force de vous lire, je ne suis plus très gâteau, je suis plutôt en train de virer tarte. Mais s'il y, a, y en a une qui peut m'aider à fermer ce magazine, c'est elle.
Ah, c'est moche.
Vous savez qu'on pouvait être viré pour ça.
Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dans la tête toute la journée. Voilà.
Ah bah oui. Heureusement Eva, vous m'avez fait découvrir Yoga Magazine. Merci beaucoup, je ne connaissais pas. Et donc là on nous propose de découvrir Grenoble en mode yogi, ce qui me fait rêver. On peut aussi gagner un séjour au Syracusa Yoga Festival. Alors yoga et festival dans la même phrase, c'est un peu suspect, mais quand je lis ce qui suit, pas tant que ça. On nous parle d'un nouveau yoga, le cannabis yoga.
Et c'est vrai, tout ce que vous êtes en train de nous dire est vrai.
Ah mais toujours.
Mais oui.
Oui.
Alors dites-en plus sur le cannabis.
Ça vous intéresse bah non, je... Alors ça se passe à Los Angeles.
Ah oui, forcément.
Ah,
pas à Grenoble. Ouais. Bah, vu que la consommation de cannabis à usage récréatif est autorisée là-bas et pas ici. On nous explique rapidement que le cours commence par une cérémonie cannabique dans laquelle on déguste une infusion tout en allumant un joint ensemble. Voilà, donc c'est bon enfant. Hein. C'est juste une soirée entre potes, quoi, ni plus ni moins. Puis ensuite, donc une fois qu'ils sont tous bien défoncés, les participants exécutent une série de postures de yoga.
Alors, toujours cannabique, hein, les postures.
Et postures cannabiques,
postures cannabiques, toujours.
Absolument. Mais en fait, on ne nous dit pas exactement lesquelles. J'imagine que ça doit être
fun. De toute façon, on ne s'en souvient pas. Hein,
oui, c'est ça.
C'est l'avantage.
Sauf les photos des copains le lendemain.
Oui, c'est ça. où est-ce que j'en étais?
Pourquoi pas le cannabis?
Mais pourquoi pas, même si je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à LA pour faire le lotus et fumer des buzz. Buzz qui en anglais veut dire bourdonnement, ce qui me fait alors penser à insectes, et donc aucun rapport. Mais dans le magazine Avantage, on nous dit ce qu'il faut faire en cas de piqûre de guêpe. Le savez-vous?
Non.
Moi, j'avais entendu dire qu'il fallait masser, alors c'est un bijou en or.
Ah bon?
Ou je crois en argent. Et enfin, je sais pas, c'est un truc.
On dit qu'il fallait approcher la flamme d'un briquet pour.
La chaleur.
Chaleur.
Ça chauffe, oui. Donc en fait, on nous dit d'appliquer de la chaleur exactement pour détruire le venin. Du coup, on nous recommande un coup de sèche-cheveux.
Bien sûr,
j'ai toujours ça sur moi. Sinon, peut-être plus pratique, écraser le bout incandescent d'une cigarette sur sa peau. Donc là. Je me permets de préciser que le cannabis risque de ne pas suffire pour la pratique, vous venez sous acide. Bref, je tourne la page du magazine Avantage et je trouve un article un peu après celui de Jepil Moncif qui s'appelle « Mon bidon tourne rond ». Alors, on nous donne plusieurs feintes en cas de digestion ronchon. En d'autres termes, en cas de flatulence aiguë. Des conseils pour quand on est dans des situations un peu compliquées, comme un pique-nique, en balade sur un bateau ou autre. Par exemple, si on est à la plage, je cite, le ventre tout ballonné, on file se baigner, les mouvements d'aquagym où l'on remonte les genoux vers le ventre favorisent l'expulsion des gaz. Voilà, alors oui, j'imagine que c'est très discret comme technique.
Et ça fait jacuzzi en
même temps. Exactement, c'était ma chute. Oh c'est pas grave. Faut que je travaille mes chutes. Puis l'article finit en nous donnant des postures de yoga anti-constipation. Le yoga anti-constipation, à ne pas confondre avec le pet yoga, qui lui consiste à faire du yoga avec son animal de compagnie.
D'accord. Voilà.
Et en groupe, en plus.
Alors
que le yoga de constipation, je pense que pour cette pratique, le groupe n'est pas conseillé. Voilà, bref, avec toutes les infos que je viens de vous rapporter, je peux déjà sentir quelques réserves.
Oui.
Mais comme dirait Princesse Réponse, mon résultat au test précédent, aventurez-vous en dehors de votre zone de confort, les récompenses en valent la peine.
Bon, très bien. Merci beaucoup Elsa. Merci,
avec
on est
plaisir.
Parés. On est vraiment parés pour entamer la deuxième heure du Club de l'été. C'est direction la Normandie, grâce à Jonathan Lambert. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1,
9h-11h, le Club de l'été. Eva Rock.
Et oui, c'est la deuxième heure de ce Club de l'été d'Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager encore et toujours. Après nos coups de cœur culturels, place à nos coups de cœur pour des découvertes patrimoniales et quelques gourmandises. Bien évidemment, vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invité Jonathan Lambert. Lise Pressac, direction la Normandie ce matin, mais dans le quel point exactement? On va où, Lise?
On va à Comté sur Noireau, on va visiter le musée de l'imprimerie typographique.
D'accord.
Tout des vaches.
Et Olivier, faites rêver notre invité et pas moi. Si vous ouvrez votre micro,
j'aurais pu vous apporter du bon cidre made in Normandie, mais
c'était bien.
Ah bah oui,
plus consensuel.
Mais ce sera du fromage, ce sera du camembert tout à l'heure, et puis une recette en fin d'émission et une petite surprise pour tout le monde.
Bon, on va voir ça.
On prend le temps, on se détend avec le Club de l'été sur Europe 1.
Jonathan Lambert, on a une question sur Twitter par Jean Seb qui nous demande: est-ce que vous aimez ce qui se fait sur YouTube?
Est-ce que les productions sur YouTube vous passionnent?
Ah,
c'est
tellement vaste.
Oui, c'est tellement vaste, on est bien d'accord.
Oui, non, mais moi je trouve que c'est assez génial. Et puis ça a permis de révéler beaucoup de talents qui n'auraient peut-être pas pu se faire connaître avec les médias classiques type télé, radio. Donc, et après, comme toute nouveauté, il y a à prendre et à laisser. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais je
vous avez des
génial.
Projets sur YouTube par exemple ou pas du
non,
tout c'est
non,
pas votre truc.
J'avais enfin YouTube après que ce soit sur le net quoi je oui, sais oui. que j'avais réalisé une série qui s'appelait Looking for Maman avec un personnage bien débile comme je les aime et oui non il y a quand même une liberté de ton qui est assez géniale
oui par rapport aux médias classiques voilà. On est d'accord. Jonathan Lambert, hier soir on a appris le décès du musicien et chanteur Johnny Clegg à l'âge de 66 ans, celui qui a fait danser la planète au début des années 80 avec notamment Scarlet for Africa, a eu un déclic un jour dans la rue alors qu'il est adolescent. Il a débarqué en Afrique du Sud avec sa maman quelques années auparavant et c'est là sur cette terre africaine qu'il va découvrir la musique Zoulou. Il s'en imprègne, il va décider de mêler ses sonorités à sa culture de blanc britannique hein, pour inventer un nouveau genre. Premiers enregistrements, les premiers concerts et premiers heurts avec la police dans une Afrique du Sud évidemment en pleine apartheid. Johnny Clegg s'impose alors comme le porte-parole d'une société multiraciale et à l'époque, alors que rares sont ceux qui prononcent le nom de Nelson Mandela de peur de représailles, eh bien lui va décider de lui consacrer une chanson au leader de l'ANC. En 1999, Mandela est libre hein, depuis 8 ans. Johnny Clegg se produit à Francfort. Sa choriste sort de scène un instant avant de revenir. La suite, c'est Johnny Clegg qui la raconte dans un documentaire absolument formidable tourné l'an dernier et qui est disponible gratuitement sur le site d'Arte.
On l'appelle le Zoulou Blanc.
La foule a fait « waouh ».
Il
y avait environ 1500 personnes dans la salle. Je me suis dit « c'est incroyable ». Ils connaissent ma chanson. C'est merveilleux. J'ai tourné la tête. Et j'ai vu Mandissa qui avançait sur scène avec Mandela. Ça a été un tel choc. C'était magique, de la magie pure. En tant qu'auteur, ça a été le point culminant de ma vie.
Et tout à coup, on comprend mieux aussi l'ampleur de cette chanson. C'est un documentaire extrêmement émouvant. C'est la dernière confession de celui qui a été, vous le disiez, Olivier,
blanc.
Baptisé le Zoulou Blanc. C'est à voir et à revoir sur le site d'Arte. Vous en gardez un souvenir de cette musique?
Oui, beaucoup, parce que c'était... en plus, c'est assez marrant, parce que ce sont des musiques qui sont très chargées de messages, qui sont très porteurs. Mais en même temps, c'est une musique extrêmement populaire, parce que je crois que c'était au top 50. Donc,
tout à fait.
Et j'avais entendu une histoire, alors je ne sais pas, est-ce que c'est de la légende, mais... que je crois gamin, il était monté dans un bus et on lui avait dit que les Noirs ne pouvaient pas monter. À partir de là, il y a une sorte de révolte qui naît en lui. Il s'appelait Jonathan d'ailleurs, son prénom, c'était pas Johnny, c'était Jonathan. Et je savais pas qui c'est, enfin je sais pas s'il était malade ou quoi. J'ai appris hier, c'est tombé comme un couperet. Et ça m'a, oui, forcément, ça fait partie de ma culture et de mon histoire, parce que je suis un peu de la génération qui a beaucoup entendu ces chansons.
Il était toujours admiratif de l'accueil qu'on a fait en France pour ces chansons, parce que c'est vrai
que... La danse était géniale, parce qu'il avait, je me souviens des clips où il levait la jambe plus haut que la tête. Je trouvais ça... magnifique.
Et alors vous verrez à travers ce documentaire à quel point évidemment la musique a été importante et à quel point il a créé un nouveau genre musical, mais surtout comment ça a accompagné l'histoire de ce pays, l'histoire poétique de ce pays. C'est vraiment formidable, c'est gratuit et c'est sur le site d'Arte. On va partir, on va se délocaliser en Normandie grâce à vous, Jonathan Lambert. C'était quoi cette chanson qu'on est en train d'écouter? Là c'est Claude Barzotti, c'est pour vous Olivier Pouls.
À la petite la fille de Normandie.
Formidable. Allez, on se retrouve dans un instant en Normandie. À tout de suite sur Europe 1.
Elle court, 9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Nous sommes toujours en direct, il est 10h13 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invité Jonathan Lambert. Jonathan, la Normandie en une odeur, ce serait quoi? Oui, je sais, je vous embête avec mes odeurs.
L'herbe grasse, ouais.
Ah ben voyez, là c'est plus facile que sur le théâtre.
Ouais. Non mais c'est vrai, je trouve qu'il y a quelque chose de ça sent le vert, quoi.
Oui,
en Normandie, c'est tellement vert, c'est connu pour ça. J'ai cette odeur là.
Vous passiez vos vacances enfant dans quel coin de Normandie?
C'était pas loin d'un village qui s'appelait Quetteville, qui était dans le Calvados, mais tout près de Beuzeville, qui pour le coup est dans l'Eure. Voilà, donc c'est à 20 km de la côte, Deauville, Trouville.
Donc vous alliez quand même à la plage,
ah, j'allais
en famille,
à la plage, ouais. Effectivement, à Deauville, Trouville, Cabourg. Et voilà, j'ai le souvenir de ces marées basses où on allait très très loin pour aller se baigner dans une eau très très froide, ces parasols multicolores. Non, c'est une région évidemment. Bah, parce
vous
que c'est
pique-niquiez sur la plage aussi?
Non, je pique-niquais pas. Je mangeais peut-être des barres chocolatées, mais c'est pas tellement, pas tellement plus loin. Ouais.
Alors avant de rejoindre ces terres de votre enfance, je vous propose quelques grammes de culture encore grâce à Lispressac. On débute ce journal de la culture par un record. Bah tiens, ça me dit quelque chose, ça.
Oui, hein, vaguement. Oui, je pense qu'il n'y a pas que vous qui se dit
série.
Quelque chose.
Alors, une petite série en 8 saisons.
Hein. Sans prétention.
Oui, mais qu'ils ont su arrêter.
Oui, mais alors...
On peut discuter du dernier épisode,
j'en
mais en tout cas...
Alors non, pas de spoil, Olivier. Non, j'ai pas commencé, moi.
Game of Thrones. Hein.
Un record battu par la série au succès interplanétaire Game of Thrones, la saison 8, dernière et ultime saison, donc, est nommée 32 fois au prochain Emmy Awards, qui récompense les programmes télé et les séries aux États-Unis. C'est un record historique pour une seule saison d'un programme. Ça dépasse le score des 26 nominations obtenues par New York Police Blues, c'était en 1994.
C'est pas même genre. Hein.
Ouais, parmi les autres favoris de cette 71e cérémonie, la mini-série de HBO Tchernobyl. Et les Emmy Awards seront décernés le 22 septembre prochain à Los Angeles.
Regardez Tchernobyl si vous pouvez sur HBO.
Mais le dernier épisode de Game of Thrones...
Non, ne dites rien.
De toute façon, la fin est évidente, hein, y a un générique.
Oui, voilà, exactement, Jonathan Lambert. On revient à aujourd'hui, nous sommes mercredi, jour de sortie cinéma.
Et on va tous prendre un coup de jeune ou un coup de vieux, c'est selon.
J'ai une petite surprise. Écoutez cet extrait.
Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern.
Le Roi Lion en allemand.
Ah oui.
Voilà, on a trouvé ça avec Robin, notre réalisateur. On s'est dit que ça vous ferait plaisir.
Ça doit exister l'allemand. Dans toutes les langues.
Hein. Oui, on aimait bien.
Ouais. D'accord.
Voilà.
Trouvez ça, en polonais, tiens, pour
ça sonne pas trop mal. 25 ans après, c'est le grand retour du Roi Lion dans les salles de cinéma. C'est Jon Favreau qui avait réalisé le livre de la jungle en 2016, qui revisite en prise de vue réelle le fameux film d'animation de Disney qui était sorti en 1994, à grand renfort d'effets spéciaux et d'images de synthèse.
Alors on poursuit ce journal en allant écouter du jazz à Marseille.
Oui, au Festival Marseille Jazz des 5 continents qui s'ouvre ce soir avec un concert de Delgrès et un trio de blues créole.
Je suis fan.
Ouais, moi j'adore Delgrès.
J'adore.
C'est vrai.
Là, je vous assure, j'ai entendu un autre morceau qui passait, je crois souvent sur Nova.
Oui.
On peut citer, hein,
oui, bien sûr.
Parce qu'ils sont assez bons pour faire découvrir. Et je trouve qu'ils ont créé un son qui est absolument extraordinaire.
Et alors, je vous recommande d'aller vraiment au Festival Marseille Jazz des 5 continents parce que le lieu est absolument sublime.
Oui, vous pourrez aussi voir Thomas Dutronc, il y a les esprits Manouche, ils sont ensemble, Chili Gonzalez, Marcus Miller. Et le festival, vous le disiez, Eva, prend place dans différents lieux.
Je vais vraiment vous épouser, Jonathan.
Oui,
là, excusez-moi,
oui,
c'est ça. Mais Six Feet Under et Marcus Miller, troisième référence, vous êtes foutus. Je vous le dis,
ouais, alors attention.
Je me ferme ma gueule.
La porte est là.
Et vous le disiez, Eva, le festival prend place dans différents lieux de la cité phocéenne, aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, au Mucem, au Théâtre Sylvain et dans les jardins du Palais Longchamp où se produira la chanteuse américaine Mélodie Gardot pour clôturer ce festival.
Très belle expo, je tente. Hein,
oui, vous avez
du buffet au Mucem. Très très belle rétrospective.
Mais Mélodie Gardot, vous avez rien à dire? C'est ça Mélodie Gardot?
Si, je connais.
Oui.
Non, je vous sens.
D'accord.
Donc je vais. Non. Salaud. Non, j'aime bien, mais je préfère Marcus Miller.
Oui. Bon, mais ça, vous auriez pas dû le dire. Je...
Il reste 3/4 d'heure pour donner d'autres références à Eva. En tout cas, le Festival Marseille Jazz des 5 continents, c'est à partir de ce soir et jusqu'au 27 juillet.
Allez, départ maintenant en Afrique tout en restant en France. Hein.
C'est à Carjac, petit village de 1200 habitants situé dans la vallée du Lot en Midi-Pyrénées. C'est entre Figeac et Cahors. C'est ici que se tient chaque été le Festival Afrique-Arjac qui célèbre la littérature, le cinéma, les arts plastiques, les contes et la musique
c'est
venue
mignon,
d'Afrique.
Ça.
Et vous pourrez entendre notamment le Sénégalais Cheklo, il y aura le Malien Abou Diara et Mokumba, groupe du Zimbabwe. Une soirée hommage à Césaria Evora, décédée en 2011, est également prévue samedi avec 4 chanteurs capverdiens. Le festival Afrique Arjac, c'est à Carjac, dans le Lot, jusqu'à dimanche.
Et ça donne très envie,
oui.
Toutes ces idées de festival. Vous avez le temps de sortir, Jonathan Lambert? D'aller en concert, d'aller voir des expos?
Ah ouais, beaucoup. J'adore ça. J'adore ça. Je suis concert, c'est vrai que j'y suis un peu moins allé dernièrement. Mais oui, expos, ciné. Non, je suis très. Je pense que ça nous nourrit. Ça permet toujours d'avoir des. Même inconsciemment, d'avoir des références, des choses qui viennent, des images qui restent.
Et ça inspire aussi pour des spectacles ou des créations.
Ça peut, mais après, oui. Vous dire quelle part
de
ce qui m'influence,
ouais.
Je ne sais
nourrit,
pas, c'est
en
très difficile.
Cas.
Mais ouais. Je pense qu'inconsciemment, on est une sorte d'éponge. Et puis voilà, après, quand on se met devant l'ordi, on presse l'éponge et ça ressort. Et on ne sait pas si c'est ce qui ressort d'ailleurs, mais on est influencé, ouais, forcément.
En parlant de culture, un peu de musique, c'est le groupe Phoenix qui débarque sur Europe 1 avec le titre « If I Ever Feel Better ».
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Eva Rock.
Merci à Robin, notre réalisateur, pour ce jingle auquel on ne s'attendait pas. Il est 10h23 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1. C'est vrai, Olivier Pouls. Pour ce club de l'été, vous êtes les invités de ce club. N'hésitez pas à réagir, à nous poser des questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Jonathan Lambert, ça y est, je crois qu'on est prêt. Départ pour la Normandie.
Ah ouais, c'est ça aussi. C'est Blanchard, non ?
Ouais, exactement, c'est vrai. Ouais, c'est... Elle est bien cette chanson. Quel souvenir vous gardez de ces vacances à quelle ville ? C'est comme ça qu'on dit ?
Ouais, c'était, c'était dans la campagne, mais c'est le bled le plus proche, c'était Quetteville. Ouais, c'était. Alors, je vais vous dire, le réchauffement climatique, je l'ai bien vécu. Hein, parce que je me souviens d'été où il pouvait pleuvoir parfois deux semaines d'affilée.
Ouais.
Et ça n'arrive plus.
La mer dépassait pas 14 degrés.
Ouais, c'est vrai, ouais. Maintenant, il est plutôt à 20. Non, mais c'est les vacances familiales, c'est ces images, vous savez, la plage un peu à l'ancienne avec les familles, les petits bateaux. Bateaux gonflables, les serviettes de toutes les couleurs, les machines à bonbons,
oui.
Où on mettait
la pièce.
La pièce, et il y avait soit les bonbons, soit la boule.
La
on
boule
ouvrait,
magique,
il y avait un petit jouet dedans. Et je me souviens même, il y avait des tirettes, où pareil, on mettait de l'argent pour gagner un jeu de cartes coquin. Mais coquin, mais des années 50, je pense. C'était un vieux stock qui restait, donc c'était des pin-up. Et à chaque fois, j'en achetais, mais c'était des pin-up. Enfin, c'était extrêmement, très poli, quoi. Je veux dire, c'était vraiment.
C'était les pages de la Redoute.
Ouais, voilà, c'était ça, mais en technicolor, et avec des couleurs très, très années 50, et j'adorais ces jeux de cartes.
Vous n'avez pas gardé ces jeux de cartes?
Non, mais ils étaient fantastiques.
Ah bah ouais, on va essayer. Si vous avez un jeu de cartes comme ça,
au mieux, on voyait une épaule ou un bout de hanche. Hein. C'était extrêmement pudique.
Mais parfois, la suggestion est plus érotique.
C'est pour ça que je les ai achetés.
Voilà. Lise, on va à quelques kilomètres de Quetteville, en fait, et on va visiter quoi aujourd'hui?
On va visiter le musée de l'imprimerie typographique de Condé-sur-Noireau, c'est donc dans le Calvados. Et en fait, les anciens de l'imprimerie vous feront découvrir les métiers de la composition et de l'impression typographique avec du matériel du début du 19e. On est en ligne avec Charles Corlet, qui est fondateur et directeur du musée. Bonjour Charles.
Bonjour.
Bonjour. Alors racontez-nous l'histoire de ce lieu.
Oh, écoutez, c'est simple. En 2010, j'ai pris ma retraite, j'avais conservé du matériel. Je me suis dit, il faut sauvegarder ce matériel, c'est notre patrimoine. Donc, j'ai décidé de monter un petit musée, mais à la campagne, hein, complètement retiré de Condé. Malheureusement, ça n'a pas réussi parce que les gens n'allaient
pas
sur ce lieu.
Oui.
Voilà. Oui. Alors, à Condé-sur-Noireau, dans le bâtiment de Corlet Numérique, il y a un hall d'accueil extrêmement joli. Et ils m'ont offert de mettre le musée dans ce lieu, ce qui le rend d'ailleurs tout à fait attrayant. Alors, le but, si vous voulez, que nous recherchions avec les anciens, c'était d'exposer du matériel qui avait 100 ans et plus, pour faire voir en même temps l'évolution technologique de cette profession qui a été extrêmement rapide pour tout ce qui concerne la composition. Il ne faut pas oublier que dans les années 70-80, on travaillait encore, beaucoup d'imprimeurs travaillaient au plomb.
Et oui.
C'est-à-dire composition manuelle pour certains, d'autres compositions manuelles et mécaniques avec les outils qui dataient déjà d'un siècle quand même. La monotype, la linotype, monotype qui composait automatiquement, la linotype qui composait des lignes blocs. Bon, et puis quand est arrivée la photocomposition, alors là ça a été à une vitesse vertigineuse.
Il a fini le saturnisme déjà.
Bon. Jonathan Lambert dit, il a fini le saturnisme, effectivement.
Voilà, alors donc cette expo... Elle a été faite pour que les visiteurs puissent découvrir du vieux matériel en fonctionnement.
Et c'est une histoire de famille. Et c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille, Charles, parce que vous avez repris la petite imprimerie de votre père.
Oui, bah, vous savez, ça, c'est une longue histoire. Hein. Ça a commencé très tôt. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, 83. Vous voyez que c'est
vous
très,
avez
très
83
long.
Ans.
Oui, madame, oui. Ah,
mais vous avez une voix de jeune homme.
Hein. Oui, c'est vrai.
Ouais, vous faites
oui, mais c'est parce que je parle beaucoup.
Ah oui, c'est pour ça.
Et est-ce qu'on peut s'imprimer son petit journal?
Pardon?
On peut venir s'imprimer son petit journal?
Ah bien, on a fait un journal, mais maintenant, si vous voulez, ça me paraît beaucoup plus difficile parce que c'est très lent. D'ailleurs, dans les visites que nous faisons, ce qui rend cette visite agréable, c'est que c'est un plan interactif. On fait travailler nos visiteurs. Par exemple, on compose, le typographe Roland compose une affiche, on met l'affiche sur la machine, et quand les gens visitent, quand ils arrivent à cette presse-là, on leur dit « allez-y, Alors ils prennent un rouleau pour ancrer à la main, ils déposent leur papier, on leur fait voir, et avec la presse, donc, ils impriment une épreuve, et ils sont très très contents, et après, tout le monde en veut. Hein.
Évidemment.
Quand les gens visitent le musée, nous on croit que ça va durer une demi-heure, trois quarts d'heure, mais quelquefois, deux heures après, ils sont encore là.
Hein. D'accord, et ça veut dire qu'on peut venir avec les enfants, alors?
Ah, c'est parfait pour les enfants. En plus, si vous voulez, dans ma vie, j'ai rencontré un homme extraordinaire qui était un journaliste, M. Bernard Desfossés, hein, qui était d'ailleurs à la direction de l'école de Lille. Et après cette rencontre, on avait dit, tiens, il faudra faire un jour une exposition. Et on a fait une exposition temporaire des moments d'histoire à la une, hein, en proposant 100 pages, une de presse depuis les années 1000, que je regarde pour ne pas vous dire de blague, je crois que c'était marqué là, depuis Napoléon.
Vous avez des antisèches en plus, voilà. Charles.
Je dis
qu'il faut aller vous voir, c'est au musée de l'imprimerie typographique à Condé-sur-Noireau, c'est gratuit en plus pour les moins de 7 ans, c'est 2,50 pour les adultes,
absolument.
Donc c'est presque gratuit, quoi.
Voilà.
Oui, absolument, parce que ça n'a pas été fait, si vous voulez, pour faire de l'argent, ça a été fait. On adorait tous notre métier.
Eh ben, merci beaucoup.
On l'aime encore, peut-être un peu moins, parce que bon, comme tout le reste, ça devient maintenant de l'informatique qui a pris le dessus.
Mais on aime
donc
la presse.
C'est ça. C'est pour ça qu'on l'a. Alors, si vous voulez, on expose une inotype quand même qui date, bon, celle-là, elle est récente, elle date de 1935.
Charles, on va être obligé de vous couper parce que il y a quelqu'un d'autre qui nous attend aussi pour nous parler de la Normandie. On est désolé de vous couper la parole comme ça, mais on vous embrasse très fort et on vient vous voir dans votre musée à
Condé-sur-Noireau. Des affiches d'Évaroc.
Voilà. Oui. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. On se retrouve dans quelques minutes, toujours en direct.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
C'est bien ici le fameux trou normand.
Eva Rock.
Oui, c'est là le trou normand et c'est la suite du club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Et nous avons la chance et le bonheur de recevoir le comédien Jonathan Lambert ce matin. Est-ce que vous êtes du genre gourmand, Jonathan?
Ouais.
C'est
ouais.
Vrai?
Ah oui, oui.
Et
ouais.
Votre Madeleine de Proust?
Alors, c'est assez, enfin, un peu nul, quoi. Mais c'est
jamais nul, les Madeleines de Proust.
Non, mais voilà, c'est parce que c'est un truc que me faisait quand j'étais pas bien, quoi. Ma mère, c'est une banane écrasée avec un filet de citron et un peu de sucre.
C'est hyper bon.
Ah, non, mais je veux dire, c'est le truc tellement, ouais. Voilà, ça fait pas.
C'est
pas...
Mais c'est une Madeleine de Proust.
Mais
hein.
Voilà, c'était le truc qui, chaque fois, me ramène en enfance.
Ouais. Et vous le faites de temps en temps?
Honnêtement, je le propose à mes enfants, ils m'envoient chier à chaque fois. Ils me disent, alors, mais on n'en veut pas de ton truc, ça a l'air pourri.
Donc, voilà. Alors, est-ce qu'en Normandie, vous mangiez du camembert quand vous y étiez?
Oui, évidemment. Camembert, ouais. Et Pont-l'Évêque aussi.
Cidre, je valide, mais le reste non. Est-ce que c'est de ça dont vous allez nous parler, Olivier Poulsin?
Oui, c'était un gros sujet, hein, Jonathan. J'avoue que j'ai fait le forcing, j'ai tout tenté pour vous apporter ici de beaux camemberts bien faits, avec du pain, avec un petit coup de cidre pour l'accompagner. Mais immédiatement, Eva et Lise m'ont dit, si un camembert rentre dans le studio et que ça sent, nous partons. Donc, comme on avait besoin d'elle pour faire l'émission...
c'était le camembert ou nous.
On le dégustera après.
Je me souviens, mon père, au petit-déj, faisait des tartines de camembert qu'il trempait dans son café au lait.
Non, ne dites pas des choses pareilles.
Ah bah, il a totalement raison. Alors, quand on parle camembert, on parle évidemment le vrai, l'authentique, le camembert au lait cru de Normandie qui, cela dit en passant, est aujourd'hui menacé parce que dans les années qui viennent, on pourrait autoriser sous l'appellation d'origine des camemberts qui sont des camemberts industriels avec du lait qui n'est pas le lait cru authentique. Et
ça
m'énerve beaucoup et on se bat ici dans le club de l'été pour garder la vraie authenticité du camembert. Et pour en parler, je vous propose que nous partions directement dans le Calvados pour retrouver Lison Mansois, qui est productrice de camembert de manière totalement artisanale dans une petite ferme à la ferme de la Mondière, à Orbec. Bonjour Lison.
Bonjour à tous.
Bonjour Lison.
Bonjour.
Alors racontez-nous ce qu'est un vrai, authentique camembert au lait cru de Normandie, celui qui a ce goût inimitable.
Alors le nôtre est fait avec les vaches de notre ferme, donc que des Normandes, exclusivement. Le cahier des charges aujourd'hui autorise uniquement 50% de vaches normandes, mais nous avons que ça.
D'accord, vraie vache qui est dehors, oui. Qui broute de la bonne herbe. Hein.
C'est ça, qui pâture du mois de février jusqu'au mois de décembre. Donc, sur nos terres normandes.
Et donc, après, le lait, vous utilisez une partie du lait pour faire du camembert parce que vous produisez directement à la ferme votre camembert.
Oui, c'est ça. On produit du camembert, du Livarot et du Pont-l'Évêque aussi. Donc, le lait arrive directement de la salle de traite à la fromagerie qui est collée au bâtiment des vaches. Et ensuite démarre la transformation du fameux camembert. Donc le lait mature à peu près 24 heures. Mmh. Ensuite, il est réchauffé. Donc on obtient un caillé, donc comme un gros yaourt, qui est tranché et moulé directement à la louche. Donc en 5 passages espacés de 40 minutes.
D'accord. Et on est bien...
C'est très précis, c'est très technique.
Il y a une vraie recette. Et on est bien d'accord, le lait est cru et donc ça change tout.
Ah oui, ça change le goût quand même. Oui, oui.
Et c'est une obligation pour avoir l'appellation d'origine contrôlée, Olivier, c'est ça ?
Alors, ça l'est.
Aujourd'hui, oui.
Ça l'est encore. Et je pense que c'est en 2021 que les règles pourraient changer. Et malheureusement, les industriels ont gagné la partie, puisque ce sont eux qui produisent la grande majorité des camemberts. Et ils ont réussi à faire entrer dans le décret d'appellation l'autorisation d'utiliser non plus uniquement du lait cru.
Mais ce sera précisé, j'imagine. Au lait cru ou.
Voilà, Lison, on est d'accord, il y aura la possibilité pour vous, qui êtes encore les derniers des Mohicans, de revendiquer votre savoir-faire.
Tout à fait, oui. En fait, dans l'appellation, il y aura deux appellations. Il y aura le véritable camembert de Normandie qui sera obligatoirement au lait cru et le camembert de Normandie qui pourra être pasteurisé.
Alors, on regardera bien la boîte et on achètera exclusivement du véritable camembert de Normandie au lait cru. Et j'en profite pour dire que le magazine Gomio sort sur son site internet en ce moment un banc test des 10 meilleurs camemberts de Normandie au lait cru. Alors, je ne sais pas si le vôtre a été dégusté, ce n'est pas certain. Mais
ils en ont dégusté 16 au total. Voilà. Oui.
Mais parce que vous, excusez-moi, mais comme ça a l'air d'être très artisanal, une petite... vous fabriquez combien de fromage, en fait, dans, je ne sais pas, une saison ou...
Disons.
Alors, nous, on prévoit de transformer à peu près 50 000 litres de lait par an. Donc, pour faire un camembert, il faut entre 2 litres et 2 litres 5 de lait.
Donc, voilà. 20 000
Donc nous, on en fait à peu près 200 par semaine en ce moment.
200 par semaine et que vous vendez directement à vos clients ou vous passez aussi par la grande distribution ? Non, c'est directement par vos clients.
Oui. Alors nous, en fait, on a un petit magasin à la ferme qu'on ouvre 2 jours par semaine. Et puis après, on fait un marché dans l'heure. Et puis, on a 3 revendeurs qui font les marchés eux-mêmes en Normandie.
Et alors, on est d'accord, le camembert, c'est évidemment affiné. C'est pas du tout plâtreux. Hein. C'est bien moelleux au cœur.
Alors, ça dépend comment les gens l'aiment.
Il y a débat.
Mais voilà, mais il y en a beaucoup qui le mangent blanc quand même. Et il y en a qui l'aiment bien coulant, comme un bon camembert de Normandie.
Alors en fait, on l'aime coulant plus traditionnellement à Paris, parce que historiquement, le camembert mettait quelques jours pour arriver sur la capitale. Et quand il arrivait ici, il était coulant. Alors que traditionnellement, sur place, on avait plutôt tendance à le manger plus frais, donc un peu plus plâtreux.
C'est ça, oui.
Et Lison, vous êtes dans cette ferme depuis combien de temps ? J'ai cru comprendre que c'était il n'y a pas si longtemps que ça que vous vous êtes installée. Hein ?
Alors, les camemberts ont démarré début janvier.
Début janvier de cette année, donc c'est vraiment une nouvelle production pour vous et une nouvelle vie, j'imagine.
C'est ça, à fait, oui, une nouvelle organisation, oui, mais c'est très agréable.
Et donc, baguette, camembert, et là aussi, on est d'accord, cidre, évidemment.
Exactement, tout à fait.
L'accord parfait avec le camembert, avec modération, c'est le cidre.
Mais le papa de Jonathan Lambert, il prenait du café au lait, hein, pour agrémenter son
Au petit-déj, non, mais c'est vrai que les fromages, d'une manière générale, au petit-déj, c'est assez génial, même avec du thé, moi j'adore. Hein.
Ah, c'est vrai ?
Ah oui.
Je suis tout à fait d'accord.
Merci. Et une dernière chose, le camembert se cuisine. En ce moment, c'est la saison des barbecues. On en a beaucoup parlé la semaine dernière dans cette émission. Et vous proposez même une recette de camembert au barbecue.
Ah oui, tout à fait. Vous avez juste à le retirer de son papier. Vous l'enveloppez de papier d'aluminium. Vous le remettez dans sa boîte. Et il faut juste préparer les petits toasts. Et puis, c'est parti.
Une sorte de boîte chaude.
Voilà, c'est ça.
Ah, ça brûle pas, la boîte ?
Non, la boîte, on la met pas sur une flamme trop intense quand même.
Je suis un peu bête, mais quand même, quoi. Et merci beaucoup, Lison, d'avoir été avec nous ce matin depuis la Normandie. On vous souhaite bonne chance dans cette nouvelle production et puis on va suivre tout ça de près. Merci infiniment d'avoir été sur Europe
1. Bonne journée.
Olivier, vous nous proposerez tout à l'heure une autre recette hein, de salade et puis on parlera aussi d'un vrai faux. Est-ce que le vin rouge doit toujours être servi chambré, vrai ou faux ? Vous nous direz tout ça. Nous quittons la Normandie dans quelques secondes pour 3 autres destinations à la fraîche. A tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend avec le club de l'été sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec nos deux experts Olivier Pouls et Lise Pressac. Notre invité est le comédien Jonathan Lambert. Jonathan Lambert, est-ce que vous voyagez ou est-ce que vous êtes plutôt du genre casanier ?
Alors, je vois, non, j'aime bien voyager, mais en fait, j'aime beaucoup rester en France parce que, oui. Voilà, on va pas faire. Mais c'est vrai que c'est un truc assez génial dans ce pays, c'est que, entre le nord, l'est, l'ouest, le sud.
Ah non, mais tous les jours, on se dit ça.
Les architectures, ouais. La cuisine, les traditions, et il n'y a pas besoin de partir très loin.
Et comment vous choisissez votre destination? Est-ce que, par exemple, en période de canicule, vous dites, je vais aller dans un endroit où il fait bon?
Oui, un endroit.
Vous allez comprendre pourquoi je vous dis
non,
ça.
Non, non, il y a ça. Il y a aussi un endroit où il y a pas trop de monde. Je vous avouerai que c'est pour moi c'est fondamental. C'est pas trop de monde, pas trop d'enfants parce que j'en ai aussi. d'en voir un peu. mais ouais, j'aime bien. Par exemple, je suis parti dans l'Aveyron plusieurs fois. C'est un endroit que j'adore parce ouais. que voilà, on croise personne,
tranquille.
On est tranquille mais même la campagne normande aussi pour ça c'est assez génial.
Alors Lise Pressa qui s'y présente, elle a peur de la canicule en été, donc elle a trouvé les trois lieux où on est certain de ne pas avoir chaud. Des grottes. Pendant ce temps-là, pardon, je précise, Lise Pressac, excusez-moi, parce que si vous entendez du bruit dans ce studio, Olivier Pouls a décidé de cuisiner, mais je ne sais absolument pas ce qu'il est en train de préparer parce que je ne vois rien.
J'aperçois qu'un poivron, je ne sais pas.
Oui, moi je vois une tomate.
Un indice, un poivron, ouais, tomate, il y a des olives.
Alors je sais ce que vous êtes en train de faire.
Il y a de l'œuf dur.
Je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous prenez un gros, gros risque. Vous prenez un gros, gros risque. On va en parler dans quelques secondes. Pour commencer notre visite de grotte, on part dans le Finistère.
Oui, pour visiter les grottes marines de Morgat en bateau, un site accessible depuis au moins 170 ans, Gustave Flaubert les évoquait dans son carnet de voyage en presqu'île de Crozon daté de 1849. La teinte des rochers est jaune, gris de fer rouge et tout cela sans transition suivant les tranches de la pierre. On se sentait entraîné vers un royaume nacré étrange comme dans un couloir magique.
C'est ce qu'il écrivait.
C'est ce qu'il écrivait. À l'époque de Flaubert, les visites étaient assurées par des pêcheurs dans des barques à godilles. Aujourd'hui, ce sont des marins guides qui vous permettent de découvrir ces grottes de Morgat. C'est une excursion de 50 minutes dans un musée géologique à ciel ouvert. Ce sont les vedettes sirènes qui assurent le voyage. Des départs toute la journée en fonction des marées. Évidemment, depuis le port de Morgat. L'excursion coûte 14€ pour les adultes, 9€ pour les 4 à 12 ans et 4€ pour les 1-3 ans.
Alors on change totalement de décor et on part maintenant en Dordogne.
Oui, pas de bateau, mais une nacelle pour visiter le gouffre de Proumessac. C'est à Audrix, entre la vallée de la Vézère et celle de la Dordogne. Baptisée cathédrale de cristal, c'est la plus grande cavité aménagée du Périgord. Le gouffre de Proumessac ne fut exploré qu'en 1907, mais de nombreuses légendes ont circulé autour de ce lieu depuis le XVIIIe siècle. À l'époque, on pensait que le trou de Proumessac, comme on l'appelait, était le cratère d'un volcan éteint. Certains auraient même vu des flammes en sortir.
Oula,
Pire, le gouffre aurait le pouvoir de faire disparaître les cadavres des voyageurs qui étaient détroussés et assassinés dans les environs.
C'est sympa.
Alors aujourd'hui, plus rien de macabre, je vous rassure. Eva, vous pourrez visiter cette immense voûte souterraine aux parois ornées d'une multitude de cristallisations à laquelle on accède par un tunnel. Il ne faut pas être trop claustro.
Oui.
La visite commence commentée traditionnelle à pied, ça dure 45 minutes. Et sinon, je vous le disais, vous pourrez emprunter une nacelle, comme c'était le cas au début du XXe siècle. À l'époque, les visiteurs descendaient 3 par 3 dans une nacelle qui était actionnée par un cheval et qui n'était accrochée qu'à un seul câble.
Oula.
Fallait pas avoir peur. Aujourd'hui, on peut descendre à 11 dans une nacelle dont le plancher tourne à 360 degrés pour recréer les sensations de l'époque. La visite s'accompagne également d'un spectacle son et lumière. Il y a même un concert de jazz qui est organisé au fond du gouffre le 8 août, Eva.
Ah, mais je pense qu'on en avait parlé dernier,
c'est
ça
possible.
Me revient. Ouais, tout
l'entrée
à fait.
Au gouffre de Proumessac coûte 10,60€, 18,60€ si vous prenez la nacelle. C'est entre 7,40€ et 12,80€ pour les moins de 16 ans. 8,30€ pour les personnes en fauteuil qui peuvent donc effectuer une visite partielle.
Ouais, c'est très bien. Enfin, Lise, vous nous proposez de faire de l'acrobranche, mais on est toujours dans une grotte,
oui,
avec ça ?
Tout à fait. Voilà. Dans la grotte de Clamousse, c'est entre Saint-Jean-de-Fosse et Saint-Guilhem-le-Désert, c'est le long des gorges de l'Hérault à 30 minutes de Montpellier. Alors la seule différence, c'est que ce n'est pas au milieu des arbres, mais entre les stalagmites. Le Céléopard propose 2 parcours sportifs pour petits et grands avec plusieurs ateliers. Il y a des ponts de singes, des tyroliennes. Depuis 2016, ils permettent d'admirer des galeries qui étaient jusqu'ici non accessibles au public, les galeries historiques découvertes en 1945. Alors c'est à la fois sportif et didactique car le parcours s'accompagne d'une visite guidée. 2 formules possibles, la version famille, plus tranquille avec une découverte ludique de 2 heures. 32€ pour les adultes, 27€ pour les 8-11 ans. Et la version sportive pour vous, Eva, si vous voulez crapahuter pendant 3 heures dans
les
galeries.
Jonathan Lambert est très sportif. Il a couru 2 fois le marathon. Je me trompe ou pas?
C'est vrai, ouais, 2 fois le marathon.
Et vous continuez à courir?
Non, je me suis... Parce que ça abîme quand même pas mal, oui. Je me suis mis à la natation. Mais ouais, la course a été un moment important.
Ah oui, je comprends.
Et alors quel temps?
4h10
pour mais le premier,
alors, pour le premier c'est pas mal.
C'était New York, hein, je le précise, parce que c'est pas le plus facile.
Ah,
et
non.
D'autre part, il y a le décalage horaire. On peut partir, on part juste 2 jours, 3 jours avant. Donc il y a le décalage horaire et il y a plein de faux plats. Et j'ai mis 4h10.
Mais donc, pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure du marathon?
Ah, ben ça, je ne sais pas.
Ah, voilà.
Non, mais très honnêtement, il y a un truc qui ne m'étonne pas, que vous ne sachiez pas.
D'ailleurs, il y a beaucoup de gens comme ça qui ne savent pas pourquoi.
J'ai beaucoup couru à un moment de ma vie et à chaque fois, je disais, je ne sais pas si je cours après quelque chose ou si je fuis quelque chose. Il y a un truc qui est quand même assez absurde, hein, dans le dans l'idée de courir. Et surtout, la première fois que j'ai fait, donc j'ai commencé à faire des courses, alors parfois c'était des 10 km ou des semis, j'ai été voir un médecin qui m'a fait, donc, parce que vous avez besoin d'un certificat médical, qui disait, mais moi, je comprends pas l'intérêt de ce sport. C'est complètement con, on se fout en l'air, ça abîme les articulations. Et c'est vrai, quand on y pense, le premier gars qui a fait un marathon, il en est mort. Donc, parce que vous connaissez la légende du marathon, c'était un messager qui a parcouru 42 km pour apprendre la nouvelle et qui est mort en arrivant. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc dès le départ qui donnait quand même un mauvais signal.
Alors, moi, je crois, j'ai une autre théorie, c'est que je pense que c'est les moments où on est en pleine conscience. C'est-à-dire qu'enfin, on se débarrasse de tout ce qui nous pollue.
Non, mais ça, c'est vrai que c'est ce que j'allais chercher. On est dans un état, on est sur un nuage, et quand on, effectivement, on dépasse une certaine distance et qu'on fabrique ces endorphines, c'est mieux que n'importe quelle drogue. Ouais.
Alors, on finit juste, pardon, on vous a coupé, Lise, avec l'acrobranche. on peut la visiter, on peut opter pour visite classique.
On peut une visite classique plus tranquille, 1h30 avec les deux pieds au sol, je vous garantis, c'est plus tranquille.
Eh bien, merci beaucoup. Jonathan Lambert, est-ce que vous avez faim? Là, tout de suite, maintenant.
Toujours.
Moi,
je suis une poubelle. Hein. On marche sur le pied, je me la bouche.
Olivier s'apprête à parler salade. Je ne sais pas ce qu'il fabrique. Il est en train de cuisiner. Mais avant, une dernière pause musicale avec Mark Ronson et Miley Cyrus. Pardon. Ils sont sur Europe 1 avec ce titre. Nothing Breaks Like a Heart.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1.
Mark Ronson et Miley Cyrus sur Europe 1. Je vous recommande le clip de cette chanson qui est très réussi, en espérant que la recette d'Olivier Pouls soit tout aussi réussie.
Le club de l'été. 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Et oui, Jonathan Lambert, c'est notre dernière séquence de ce club de l'été. Et alors là, bon, bah, je dois dire que j'ai eu droit à une surprise dans ce studio. Olivier, vous aviez la pression pour cette dernière séquence parce que vous avez voulu faire le malin. On avait dit depuis hier qu'on allait parler de la salade niçoise aujourd'hui. Alors je vous explique, Jonathan Lambert, je suis niçoise, Olivier Pouls est belge, donc il y a... Je veux dire, bon, dans les deux, il y en a une qui connaît mieux que l'autre, quand même. Hein. On va pas se mentir. Et donc, allez-y.
Bah, ça, c'est la
vous
vraie.
Vous avez fait une vraie saliçoise dans le studio.
Oui, mais surtout, j'ai aussi une petite botte secrète et des informateurs qui peuvent me donner l'authentique recette de cette salade niçoise. Parce qu'évidemment, alors, pas de pommes de terre, pas de riz, pas
non,
de tout ceci,
jamais,
cela.
Jamais.
Uniquement des produits crus.
Oui.
La base étant la tomate. Donc là, j'ai fait le marché ce matin. Je vous ai apporté tous les ingrédients nécessaires. Donc de la belle tomate de pleine terre, des œufs durs. Je vous ai rajouté des petites cébettes, des petits oignons nouveaux, un peu de poivron. Et tous ces ingrédients m'ont en fait été soufflés par quelqu'un que vous connaissez peut-être. Bonjour Gisèle.
Mais non.
Bonjour.
Comment ça va Gisèle?
Ah ben ça va, oui.
Alors,
et vous
Bonjour Gisèle. Donc,
j'imagine.
Préciser qui est Gisèle, une pure niçoise.
Non, même pas. C'est ma maman, en fait.
C'est la même réaction que quand vos parents vous attendent à la sortie de l'école.
Alors, est-ce que j'ai tout bon sur mes ingrédients de salade niçoise?
Oui, tout à fait. On met de la tomate, bien sûr. Bon, le plus difficile, c'est de trouver de la bonne tomate. Ensuite, du concombre, des fèves. Alors, le plus dur aussi, c'est de faire la salade niçoise comme il y a les bons légumes du pays, mais ça, c'est pas évident. Donc, des fèves épluchées. Ensuite, vous mettez des artichauts, c'est-à-dire les petits artichauts
au monde. Les petits poivrades, oui.
Voilà. Ensuite, les poivrons verts, mais le poivron en salade, pas le gros poivron qu'on trouve. Donc, le petit poivron vert. Ensuite, les cébettes, vous l'avez dit. L'œuf dur, vous l'avez dit. L'anchois ou du thon, des olives noires. Et puis, évidemment, ce qui est impératif, c'est l'ail et le basilic. Voilà. Et l'huile d'olive, bien sûr.
Et un petit filet d'huile d'olive pour enrober tout ça. Et encore, on rappelle que il y a d'ailleurs... une espèce de conseil de surveillance à Nice qui défend l'authenticité de la salade niçoise. Et je peux dire que certains chefs qui, pour avoir voulu l'interpréter un petit peu trop librement, ont eu des gros problèmes. Ils ne pouvaient plus mettre les pieds à Nice ni dans les environs. Hein.
Exactement, bien sûr. Bon, moi, je rajoute quelques radis parce que bon, c'est sympa, c'est joli, mais en fait, c'est pas obligatoire.
Ah oui, vous allez vous faire engueuler si vous rajoutez des radis, Madame Rock. Et dites-moi, pensez à vous acheter aussi un nouveau téléphone avec lequel on vous entend très très bien là, parce que ça grésille un tout petit peu à Saint-Laurent-du-Var. Hein.
Mais oui, on a des problèmes de ligne en ce moment. C'est vrai que c'est pas drôle.
Mais j'imagine que vous allez faire une salade niçoise, maman, à midi ou pas?
Pas du tout.
Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites?
Parce que je suis pas allée au marché. pied. J'en sais rien, je ne sais pas encore.
D'accord. Une petite pisse à la dire avec du mesclun.
Et merci en tout cas.
Merci
beaucoup, Gisèle.
Bisous, Gisèle.
Je vous en prie.
Et oui,
bon appétit.
Merci beaucoup.
Et Jonathan Lambert, qui connaît très bien la région, me souffle la soca, évidemment. Farine de pois chiche pour les gens qui ne connaissent pas, qu'on fait au feu de bois dans une grande plaque toute fine et qui est très très bonne.
Ça, c'était plus compliqué à vous faire.
Merci pour cette surprise. Alors, pardon, je suis désolée, je n'étais pas au courant que c'était Madame Rock qui allait nous parler de la salade niçoise. Elle
du coup,
fait
on peut appeler ma mère,
bien.
Parce que j'ai un truc à faire.
Si vous voulez, donnez-nous le numéro.
Merci infiniment. Et elle est très réussie, votre salade niçoise, Olivier.
Elle est très belle. On a 2 minutes pour le petit vrai faux.
Oui, tout à fait. Alors, vous nous rappelez quelle était l'affirmation ? Parce que je suis totalement troublée et perdue. Allez-y.
Voilà, le vin blanc, évidemment, pas de discussion au frigo, on le sert frais. Le vin rouge chambré, donc à température ambiante, c'est c'est ce qu'on nous dit traditionnellement. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Qu'est-ce qu'on en fait, ça ?
Eh bien, moi, je pense que ça dépend la qualité du vin. Enfin, pas la qualité du vin, mais ça dépend le vin que vous servez, non ?
Mais ça dépend surtout, en fait, de la température ambiante, parce que c'est bien ça le problème. Et comme on est en été en ce moment...
Et oui, on a envie
échappé,
que ça soit un peu frais.
Hein. Ben, il fait chaud. Et donc... C'est vrai que cette expression « chambrer le vin », c'était à l'époque où on vivait dans des maisons qui n'étaient pas forcément chauffées comme aujourd'hui, dans des grosses bâtisses en pierre, dans lesquelles en général la température était plutôt de 15 ou 16 degrés, ce qui est une bonne température de service pour des vins rouges. Mais quand on est dans un appartement chauffé, dans une maison qui fait 25, 28 degrés à l'intérieur, ce qui est parfois le cas avec ces grosses chaleurs, ça ne convient pas du tout au vin rouge, puisque la température a tendance à faire ressortir le côté alcooleux des vins, les rendre un petit peu plus lourds. Oui. Donc dans ces cas-là, on n'hésite pas, le vin rouge, même direction que le vin blanc, il va au frigo pendant quelques minutes, petite demi-heure, trois quarts d'heure, le temps de le redescendre en température. Et une fois que vous le mettrez dans vos verres, de toute façon, il va très très vite se réchauffer. Donc faites très attention, et puis je relance un appel à nos amis restaurateurs qui servent souvent, trop souvent, des vins rouges trop chauds en ce moment parce qu'ils n'ont pas forcément de cave. Mais dans ces cas-là, un petit seau à glace et le vin rouge n'en sera que meilleur.
Oui, parce que c'est soit trop chaud, soit trop froid. Parce que parfois, on a l'impression qu'ils les ont mis au congélo pour les rafraîchir rapidement.
Mieux vaut trop froid parce qu'en attendant 5-10 minutes, il va atteindre une température acceptable. En général, quand il est trop chaud, puis surtout, quand vous demandez un seau avec de la glace au sommelier pour mettre le vin rouge, en général, il vous regarde avec un air en disant « mais il ne connaît rien celui-là », mais pas du tout. Vous allez expliquer que son vin est trop chaud et que vous avez tout simplement envie de le baisser un peu en température. Et
j'ai oublié de vous dire, Jonathan Lambert, c'est que Olivier Pouls, c'est une des grandes plumes et un des dirigeants de la revue des Vins de France.
Je sais, mais je le rejoins tout à fait là-dessus parce que là, dernièrement, quand on se fait servir un Bordeaux ou un Côte-du-Rhône et qu'en ce moment il fait 24-25 degrés, c'est carrément imbuvable. Et moi, j'hésite pas effectivement à le foutre dans un seau à glace ou au frigidaire pendant 20 minutes avant de le servir.
Exactement. Et puis je rappelle aussi que tous les samedi avec la fine équipe des bons vivants de Laurent Mariotte et Yves Candebord.
Sur
je vous retrouve entre 11h et midi et demi avec, entre autres, les 2 minutes du vin où on parle de tous ces sujets. Et on a fait un sujet sur la température de service des vins. C'est très, très important, cette température
Toutes
de service.
Toutes les émissions, elles sont évidemment
on peut vraiment passer à côté d'un vin,
sur le site Europe 1.
Si vous servez une mauvaise température.
Exactement. Podcast. Jonathan Lambert, est-ce que vous validez la salade niçoise
chez Sous ?
Super bonne. C'est vrai.
Voilà, je viens de goûter. Je peux le refaire. Mais moi, je suis un dingue des anchois. D'ailleurs, anchois aussi, gros sujet, parce que les anchois, les gens disent à chaque fois, on les connaît. Les anchois qu'on rencontre le plus souvent, c'est un anchois tri sur une pizza qui est tout salé, tout grillé, qui est immangeable. Mais l'anchois, il faut que ce soit un peu gras, évidemment, un peu salé, mais moelleux.
Oui, et puis il faut réhabiliter tous ces poissons qui sont des poissons, en fait, effectivement, avec du très bon gras. Hein, c'est des poissons très chargés en oméga-3. La sardine,
très
le
bon
maquereau, ces poissons bleus qui sont très bons pour la santé, surtout très bons pour votre portefeuille parce que c'est pas trop cher.
Merci infiniment, merci beaucoup Olivier Pouls pour toutes ces surprises. Merci infiniment à vous, surtout Jonathan Lambert, d'être passé par ce studio d'Europe 1. Votre spectacle Looking for Kim est à voir le 24 juillet à 21h sur TMC. Le 30 juillet, vous serez sur M6 à 21h pour la nouvelle saison de Péplum. Vous êtes au cinéma à partir d'aujourd'hui dans une apparition, mais quand même dans un très beau film qui s'appelle 100 kilos d'étoiles. Lise Pressac et merci infiniment de nous avoir accompagnés.
Merci à vous.
On vous souhaite un très très bon été et une très bonne rentrée. Lise Pressac, Olivier Pouls, on se retrouve demain, même lieu, même heure, rien ne change. Ne cuisinez pas parce que je vous amène un chef en fait, en studio. On aura deux invités, Stéphane Rottenberg qui viendra nous présenter la nouvelle saison de Pékin Express et le chef Grégory Cohen qui sera également avec nous pour quelques idées recettes et puis je crois qu'il vient avec deux trois petits trucs à manger. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff en vous souhaitant une très bonne journée à l'écoute d'Europe 1 et à demain dès 9h.
À demain.
Merci.